Le journal, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, un changement majeur dans notre système judiciaire avec la première expérimentation d'une cour criminelle. Une nouvelle juridiction composée seulement de magistrats professionnels mais plus de jurés pour traiter surtout des affaires de viol. Explication à suivre. Un nouvel épisode dans la bataille autour de l'épandage des pesticides. Le ministre de l'Agriculture envisage une interdiction mais dans les 3 à 10 mètres seulement autour des habitations. Dans ce journal également, comment les Républicains essayent de renouveler leur stock de militants, souvent vieillissants. Nous serons à Hong Kong avec des manifestants toujours insatisfaits après le recul hier du gouvernement. Et puis Facebook qui réfléchit à supprimer les mentions « like » sur son réseau.
Invité de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50. Aujourd'hui, l'eurodéputé David Cormann. Il est également secrétaire national d'Europe Écologie des Verts.
France Inter.
Et c'est une petite révolution, Sébastien, dans le monde de la justice, avec l'arrivée des cours criminelles.
Une sorte de nouvel échelon entre la cour d'assises et les tribunaux correctionnels. L'objectif, selon le gouvernement, c'est de désengorger les cours d'assises, de raccourcir les délais de jugement. Ici, pas de jury populaire, ce qui ulcère certains avocats qui voient une régression démocratique. Ces cours criminelles ne seront composées que de magistrats professionnels et elles traiteront des crimes punis de 15 à 20 ans de prison. Essentiellement les viols et les vols à main armée. L'expérimentation commence aujourd'hui avec une affaire de tentative de viol auditionnée à Caen. Les précisions de Didier Charpin de France Bleu Basse Normandie.
Selon les estimations de la chancellerie, 57% des affaires criminelles pourraient être jugées devant ces nouvelles cours, ce qui correspond à la proportion d'accusés majeurs non récidivistes et soupçonnés d'un crime passible de 15 à 20 ans de prison. Pour gagner du temps, ils comparaîtront donc dans un délai d'un an lors d'audiences plus courtes avec moins de témoins et d'experts appelés à la barre. Une justice au rabais, se plaignent certains avocats. Faux, leur répond Jean-Frédéric Lamoureux, procureur général à la cour d'appel de Caen.
Aucun élément objectif ne permet de parler d'une justice au rabais. Les pénalités sont exactement les mêmes. La défense de la société n'est pas mise en cause. Les personnes accusées seront jugées plus rapidement. Les victimes seront entendues et leurs droits seront reconnus plus rapidement. La procédure est exactement identique.
Ce premier procès aujourd'hui à Caen sera suivi par beaucoup d'autres. Jean-Luc Stoessley, le premier président de la cour d'appel de Caen, a déjà listé toutes les affaires qui entreront dans le champ de compétence de cette cour criminelle.
Il y a actuellement 89 dossiers potentiels donc d'être jugés devant une cour criminelle. Majoritairement des affaires de viol aggravées. Il y a également quelques affaires de vol à main armée ou des coups mortels.
L'expérimentation des cours criminelles va durer 3 ans, puis un bilan sera dressé avant une éventuelle généralisation à toute la France.
Didier Charpin de France Bleu Basse Normandie. 7 départements au total ont été choisis pour expérimenter ces cours criminelles. Les Ardennes, le Calvados, le Cher, la Moselle, la Réunion, la Seine-Maritime et les Yvelines.
7h33, c'était l'une des polémiques de l'été, Sébastien, interdire les pesticides à moins de 150 mètres des habitations. Eh bien, le gouvernement est contre.
Après la justice administrative qui a retoqué l'arrêté municipal du maire de Langouette en Bretagne, on s'en souvient, c'est donc maintenant l'exécutif qui s'y oppose. Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume y voit une folie, je cite. Le gouvernement envisagerait ainsi des bandes zéro pesticides autour des habitations de 3 à 10 mètres maximum. Une proposition que partage la FNSEA, le principal syndicat agricole, qui de son côté plaide pour un dialogue social dans chaque département. Explication Manuel Ruffez.
La FNSEA l'affirme, dans certains départements, 150 mètres autour des habitations, c'est 30% de la surface agricole utile qui disparaît. Considérable, une hérésie, vous dit-on même. Christiane Lambert, la présidente.
150 mètres, c'est totalement farfelu. La longueur d'1,5 terrain de foot ou de rugby. Mais imaginez une zone enfrichée, 150 mètres autour des maisons. Mais aucun riverain n'en veut. Ce maire a fait du buzz, de la politique, beaucoup de politique, de l'activisme aussi. Moi, j'entends les lanceurs d'alerte, mais je veux des lanceurs d'alerte sérieux.
La FNSEA défend avec l'État la mise en place de chartes départementales qui doivent permettre aux agriculteurs, à leurs riverains, aux élus aussi, de se mettre d'accord sur les zones interdites de traitement. Le dialogue, dit Jérôme Despé, le secrétaire général de la FNSEA.
La santé publique, on est aussi concerné, mais faisons-le de façon rationnelle, dans le dialogue, dans la construction. Travaillons sur ces chartes-là plutôt que de légiférer sur des distances qui ne veulent rien dire par rapport au travail que nous sommes en train donc de mener pour permettre à la fois de protéger donc les cultures, mais aussi de protéger les riverains.
7 de ces chartes départementales sont déjà signées, 30 le seront d'ici la fin du mois, et normalement tous les départements d'ici la fin de l'année.
L'association L214 lance aujourd'hui une campagne très offensive contre l'élevage intensif avec un appel signé par 182 personnalités comme Yann Arthus-Bertrand, Isabella Gianni, Nagui, Stéphane Bern ou encore l'équipe de Charlie Hebdo. Selon un livre manifeste de l'association à paraître aujourd'hui, 3 millions d'animaux sont tués chaque jour avant même de partir dans les abattoirs pour être transformés en graisse animale. Les premiers chiffres des conséquences de la sécheresse de ce printemps et de l'été. 14 000 exploitations agricoles françaises sinistrées sur 440 000, chiffre basé sur l'estimation de l'assureur Groupama. Un incendie de pinède toujours en cours dans l'Aude, à Conques-sur-Orbiel. Près de 150 hectares brûlés, 350 pompiers mobilisés, mais pas d'habitants menacés. Plusieurs maisons ont été par ailleurs évacués. On passe à la politique avec l'ouverture demain du campus des Jeunes Républicains au Touquet. La droite toujours morcelée, en manque de souffle et qui cherche à injecter du sang neuf dans les rangs de ses militants, des militants souvent âgés. Alors comment rajeunir les troupes? Les Républicains réfléchissent à un nouveau statut, le sympathisant engagé, mais pas forcément payant, Cécilia Arbona.
Nos militants sont surprenants, confie Jean Leonetti, le président par intérim des Républicains. Ils sont, dit il, chaud bouillant pour rester entre eux, alors qu'au contraire, il faut ouvrir les portes et même les fenêtres. Avis partagé par Éric Diard, député LR des Bouches-du-Rhône, inquiet de voir des parterres de mise en plis et de cheveux blancs dans ses réunions publiques.
Je critique pas, c'est très bien, je remercie les seniors de s'intéresser à la politique. Le problème, c'est que on a presque que des seniors. Ça pose un problème. C'est comme Tintin, nous devons rassembler de 7 à 77 ans.
Valoriser un sympathisant qui s'engage sans pour autant payer de cotisations, c'est la piste que veut explorer Pierre-Henri Dumont, député Les Républicains du Pas-de-Calais.
Je dois avoir 300 adhérents aux Républicains dans la 7e circonscription du Pas-de-Calais. Et dans moi, mon fichier de soutien de mon action en tant que député, on est à plus de 1000. Donc il faudra trouver un statut hybride. Ce serait un sas avant d'adhérer formellement aux Républicains. Ça peut être gratuit, cette adhésion.
Accueillir des sympathisants à titre gracieux dans un premier temps. Des têtes nouvelles venues des tissus associatifs et professionnels.
Je crois que là, vraiment, la droite va crever si on est en train de dire il faut qu'on retrouve un nouveau Borloo, un nouveau Sarkozy. Parce que ça n'existe pas.
Cet élu trentenaire en est convaincu. Les Républicains pèsent bien plus lourd que les 130 000 adhérents payants revendiqués.
Cécilia Arbona.
Il est 7h38, Sébastien, direction Hong Kong, où les manifestants restent mobilisés, même après le recul du gouvernement.
La chef de l'exécutif Carrie Lam a fini par céder hier et par annoncer le retrait formel de la loi d'extradition vers la Chine, une loi à l'origine de 3 mois de contestation. Cette annonce toutefois ne satisfait qu'une seule des 5 revendications des militants pro-démocratie qui appellent maintenant à de nouvelles actions. Reportage à Hong Kong de Stéphane Lagarde.
Révolution de notre temps, libérer Hong Kong. Quelques heures après le retrait de la loi d'extradition, les slogans sont de retour devant le Parlement hongkongais. Pour cette conférence de presse improvisée à la nuit tombée, les orateurs portent cagoule et casque de chantier. L'annonce de Carrie Lam ne les a pas satisfaits. C'est un pansement sur une plaie à vif, explique-t-il. Rob Tyler, Gina, travaille dans une multinationale de l'une des tours de verre du quartier.
Si elle avait retiré la loi il y a 3 mois, tout le monde aurait été content. Maintenant, on a vu des policiers frapper des civils dans le métro. Nous devons donc continuer à nous battre pour la justice.
Ce combat pour la justice, ces élèves en ingénierie civile rassemblés dans les rues commerçantes de Wanchai, non loin des institutions, y ont consacré tout leur été. Klaxon des automobilistes pour saluer la bonne nouvelle. Tom, 21 ans.
C'est une très bonne nouvelle, on s'est beaucoup battu pour ce résultat.
Un bon résultat, mais qui ne va pas assez loin, estime Andy Yep, 70 ans, retraité et joueur de football amateur dans un stade du centre-ville.
Hong Kong est devenu un état policier. La police est dans le métro, devant les écoles. Carrie Lam a fait de sérieuses erreurs.
Des erreurs que semblent prêts à pardonner les milieux d'affaires, seuls à se féliciter ouvertement de ce retrait de la loi. Impatient de voir l'économie hongkongaise redémarrer. Hong Kong, Stéphane Lagarde, RFI pour France Inter.
Une amende record contre YouTube aux États-Unis. Des organisations de protection de l'enfance accusaient la plateforme vidéo de collecter les informations personnelles de jeunes mineurs sans que les parents ne le sachent et de s'en servir pour faire de la publicité ciblée. Résultat, une amende de 170 millions de dollars. Une goutte d'eau toutefois face aux 31 milliards de dollars de bénéfices de sa maison mère.
Et est-ce la fin de la course à la popularité sur les réseaux? réseaux sociaux.
Après Instagram, Facebook pourrait à son tour décider de ne plus afficher publiquement le nombre de mentions like, le fameux j'aime, simple hypothèse pour l'instant, mais ce serait tout le système du réseau social qui serait remis en question, Delphine Evenou.
L'impératif de popularité, ces collégiens s'en défendent.
Moi je m'en fous un peu de ça.
Mais quand on leur demande leur record de like sur les réseaux sociaux,
c'est 43.
Rire moqueur derrière.
C'est pas beaucoup.
Car évidemment, à l'adolescence, l'approbation a son importance.
Bah, ça te rend fier de savoir qu'il y a des gens qui te like tes photos, qui aiment tes photos, enfin, ça change quelque chose.
C'est pour libérer ces 2,5 milliards d'utilisateurs de cette pression sociale que Facebook voudrait rendre le pouce bleu en l'air pudique et donc non public. Comme le teste déjà depuis 3 mois sa filiale Instagram dans 7 pays, annonce cosmétique pour faire taire les critiques, selon Olivier Erscheid, chercheur à l'Université de Nantes, spécialiste de l'identité numérique, qui n'y croit pas une seconde.
Ça assainirait probablement un certain nombre d'interactions, hein, puisqu'effectivement, on ne serait plus dans des recherches systématiques de visibilité, y compris si on n'a rien à dire. Mais il est tout aussi probable que ça ferait chuter de manière assez colossale le nombre d'interactions sur la plateforme. Et Facebook sans interaction, c'est un site qui est mort, qui ne peut plus du tout être intéressant pour les annonceurs. Et donc, c'est son modèle économique qui s'effondre.
Et Facebook reste effectivement très prudent en expliquant hors micro que pour l'instant, le groupe envisage de réfléchir à tester le like caché.
On termine avec la mort d'une figure de l'église française, la mort du cardinal Roger Etchegaray à l'âge de 96 ans. Il était l'homme de confiance, le diplomate du pape Jean-Paul II. Il l'avait représenté dans de nombreux pays, en Irak, en Iran ou même à Cuba, où il avait rencontré Fidel Castro.
Merci Sébastien Legénie.